Chapitre 18. Monsieur Théophraste Longuet subit la torture sans aucun courage, mais en poussant de curieux hurlements. L'auteur de ces lignes a toujours estimé qu'il appartenait seulement à une littérature de décadence de s'attacher à peindre sans utilité des objets d'horreur. Ne dirait-on point vraiment qu'il n'est de joie pour certains auteurs que dans la description minutieuse, ardente, palpitante, satanique des pires tableaux de la perversité des hommes ou de la cruauté des choses. Il recueille avec un soin jaloux tout ce que peut inventer le malheur. Il ne laisse se perdre aucun gémissement. Au besoin, il apprendrait à la douleur à enfanter. Ceci, vraiment, ne le pensez-vous pas, devrait être défendu par les lois qui ont la garde de la raison sociale. Que ferons-nous et que deviendra le monde, je vous le demande, le jour où la raison sociale fera faillite? La société, c'est tout à fait certain, ne peut vivre sans la raison. Il serait grand temps qu'on préserve celle-ci des coups regrettables qu'on lui porte. Quant à l'auteur de ces lignes, que la nature a doué d'un esprit sain et pondéré, enfin du moins il le croit, il ne saurait prendre la moindre jouissance à tremper sa plume dans le sang des blessures aux lèvres fraîches. Il le dit bien haut avant de s'engager dans le récit des plus affreuses tortures morales et physiques qu'il ait été donné à une créature de Dieu de supporter. Mais ce qui ne saurait manquer de le soutenir dans cette tâche difficile, c'est qu'il sait que le récit des malheurs de Théophraste plongé dans le sommeil de l'hypnose est destiné à jeter un jour extraordinairement étourdissant sur les problèmes restés les plus obscurs de la chirurgie psychique. Tout d'abord, on ne saurait trop engager le lecteur à se rendre un compte tout à fait exact des éléments de l'opération si monstrueusement singulière que va oser, dans son laboratoire de la rue de la Huchette, M. Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox. Si osé, notre parole, que cet homme de lumière a dit « Je vais tenter Dieu », ben, il n'exagérait pas. Tuer Cartouche sans tuer Longuet, voilà, c'est simple. C'est aussi simple que de dire « Que le monde soit ». C'est aussi simple que cela quand on est Dieu. Mais quand on est M. Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox, ce qui est cependant déjà quelque chose, on risque de tuer Longuet sans tuer Cartouche. C'est une responsabilité des plus graves. Il est absolument inutile de tuer M. Longuet si Cartouche, dont l'âme n'aura pas été régénérée, doit réapparaître sur le globe en quelque nouvelle réincarnation. Un autre qu'Eliphas eût certainement reculé. Mais lui, nous l'avons dit, avait l'habitude des opérations psychiques les plus compliquées, et la délicatesse de son scalpel astral était universellement reconnue, même au Tibet. Il savait promener sans hâte et sans fièvre l'esprit à tuer autour de sa mort. Il le préparait ainsi au trépas. Il l'y amenait. Il lui faisait vivre sa mort jusqu'au moment où il lui faisait mourir sa mort. Alors, à ce moment juste, il fallait, oui, certainement, il fallait le geste d'un dieu, le geste double qui précipitait à la mort l'esprit mort et ramenait à la vie l'esprit vivant. Maintenant que nous avons parfaitement compris les données de l'opération et que nous avons assisté aux préliminaires de cette opération, qui ont consisté à faire vivre à Théophraste les derniers mois de la vie de Cartouche, descendons dans le laboratoire où gémit Théophraste sur son lit de sangle, dans le laboratoire qu'éclairent les flammes écarlates et sifflantes. Asseyons-nous aux côtés de M. Le Camus et de cette pauvre Mme Longuet, et qu'une anxiété charitable habite notre cœur. Nous n'allons plus entendre que la voix impérative de M. de la Nox et la voix douloureuse de Théophraste. Ainsi, pour que la moindre petite inflexion étrangère à une scène aussi sublime et aussi criminelle ne vienne nous troubler, nous allons la présenter sous forme d'interrogatoire. Le D est Monsieur de la Nox. Le R, c'est Théophraste. De cette manière aussi, l'auteur de ces lignes dégage sa responsabilité. Enfin, il ne saurait être trop répété que cet interrogatoire et les incidents qui l'entourent sont purement reproduits d'après la narration qu'en a laissée Monsieur Le Camus. D. Où te conduit-on, Cartouche? R. Dans la salle de la question. Mon procès est terminé, je suis condamné à mourir par la roue. Avant le supplice, ils veulent mes aveux, les noms de mes complices, de mes amis, de mes maîtresses. Je me ferai plutôt rouer deux fois, ils n'auront rien. D. Et maintenant, où es-tu, Cartouche? R. Je descends un petit escalier au bout de l'allée des Pailleux. On ouvre une grille. Je suis dans les ténèbres des caves. Ces caves ne me font pas peur. Je les connais bien. J'ai été enfermé dans ces caves sous Louis le Vel, sous Philippe le Bel. D. Avec une terrible autorité. Cartouche, tu es Cartouche. Tu es dans ces caves par ordre du régent. Et il répète dans le fond de lui-même, Philippe le Bel. Mais où allons-nous, mon Dieu, où allons-nous? Ne nous égarons pas. Et maintenant, où es-tu, Cartouche? J'avance dans la nuit des caves. Il y a autour de moi tant de gardes qui marchent dans la nuit des caves que je ne pourrais pas en dire le nombre. Oh, je vois là-bas, tout là-bas, un rayon que je connais bien. C'est un rayon carré que le soleil a oublié là depuis le commencement de l'histoire de France. Mes gardes ne sont pas des gardes françaises. On se méfie de toutes les gardes françaises. Mes gardes sont commandés par le lieutenant de robe courte du Châtelet. Et maintenant, où es-tu, Cartouche? Oh, je suis dans la chambre de la torture. J'ai devant moi des hommes vêtus de longues robes, mais je distingue pas leur visage. Ce sont mes commissaires qui ont été commis pour les recollements, suivant l'usage, paraît-il. Mais pourquoi appelle-t-on ça recollement? Cette pensée me fait sourire. Théophraste sourit en effet. Et maintenant, que fais-tu, Cartouche? Bon, on me pose sur la sellette. Le bourreau et ses aides placent mes jambes dans les rodequins. Ils serrent fortement les planchettes autour de mes jambes avec des cordes d'une dureté incroyable. Je crois bien que les gaillards vont me faire souffrir tout mon sou et que la journée sera rude, mais j'ai le cœur serré de courage. Ils m'entameront pas. Ici, M. Théophraste Longuet, sur son lit de sangle, pousse un cri effroyable. Sa bouche est grande ouverte et un hurlement s'en échappe toujours. Adolphe et Marceline sont penchés sur lui et se demandent avec horreur quand ce hurlement cessera et quand cette bouche se refermera. Quant à M. Eliphas de la Nox, il dit « C'est la torture qui commence, mais s'ils se mettent à hurler comme cela au premier coup de maillet, ça va pas être drôle. » Monsieur Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox ne s'attendait point à ces hurlements. Il calma l'émotion de Monsieur Le Camus et de Madame Longuet d'un geste suprême et ils voulurent ordonner quelque chose à Théophraste, quelque chose qu'on ne sut jamais car le hurlement qui continuait empêcha qu'on entendît ce quelque chose. Enfin, le hurlement devint gémissement. Et le gémissement lui-même se tut. La figure de Théophraste était redevenue relativement placide. D. Qu'as-tu donc à crier de la sorte, Cartouche? R. Bon, je crie parce que c'est un supplice terrible que de pouvoir dénoncer mes complices. Je les ai sur le bout de la langue. Ils voient donc pas que si je les dénonce point, c'est que je puis pas remuer le bout de la langue. Pourquoi Cartouche n'a-t-il pas remué le bout de la langue? Moi, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et ils vont encore venir avec leurs maillets. Et ils vont encore m'enfoncer des morceaux de bois dans les jambes. Oh, c'est injuste. Je peux pas remuer le bout de la langue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on te fait, Cartouche? Le médecin et le chirurgien se penchent sur moi, me tâtent les poignets. Ils se félicitent d'avoir choisi ce genre de torture qui est, disent-ils, au commissaire, le moins dangereux pour la vie et le moins susceptible d'accident. Il n'y a rien au-dessus, proclame-t-il, que la question des brodequins pour prolonger et pour rendre plus sensibles les douleurs, sans hasarder que le condamné succombe sous leur violence ou qu'il perde connaissance et le sentiment. Phrase historique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on te fait, Cartouche? Mais on ne fait rien, et je le regrette, car on a décidé de m'enfoncer le second coin d'une demi-heure après le premier pour laisser passer l'engourdissement que produit ordinairement la ligature et pour que la sensibilité fût tout entière. Je regarde mes juges, ils ont des gueules noires, même mieux la figure du bourreau. Ça l'amuse pas plus que moi, il revient avec le second coin, ils sont tous autour de moi. Ils sont sur moi. Ah! Jamais, raconte M. Le Camus, jamais la bouche de Théophraste ne m'avait paru aussi grande. Dans son visage, il n'y avait plus qu'une bouche, une bouche qui ne remuait pas le bout de la langue, et cet abîme tumultueux qu'était cette bouche débordait avec fracas de ce « Ah !» qui, telle une lave bouillante, en brûlait les bords. En effet, nous pûmes constater que les lèvres éclataient. C'était là, hélas, un des moindres phénomènes que nous étions appelés à constater relativement à la douleur que Théophraste ressentait de la torture de Cartouche. Ce furent là de bien affreuses minutes. Je regardais M. Eliphas de la Nox, qui, lorsque ce second sinistre hurlement se fut tu, dit encore: mais pourquoi cries-tu ainsi, Cartouche? Ben, je vous répète que c'est à cause que ces imbéciles ne prennent pas les noms que j'ai sur le bout de la langue. C'est pas de ma faute si Cartouche n'a pas dénoncé. Mais Cartouche n'a pas crié. Pourquoi cries-tu, Cartouche? Ben, c'est Cartouche que l'on torture, et ben, c'est Théophraste Longuet qui crie. M. de la Nox semble foudroyé par cette dernière réponse. Il se tourne vers M. Le Camus et Mme Longuet. Il dit d'une voix basse et tremblante: Alors, c'est lui qui souffre. Et c'était la vérité. On ne pouvait, dit M. Le Camus, en douter à l'expression effroyable du visage dans le moment que le bourreau enfonçait le coin. C'était Cartouche que l'on torturait et c'était Théophraste qui souffrait. Ceci prouvait l'identité de l'âme. Mais que la douleur n'eût pas cessé d'être effective après 200 ans, voilà ce qui consternait M. Eliphas de la Nox. C'était la première fois qu'un cas semblable se présentait sous son scalpel astral. La douleur de Cartouche criait à travers 2 siècles. Et ce cri de la douleur qui n'était pas sorti de la bouche de Cartouche avait attendu pour sortir la bouche de Théophraste. M. Eliphas de la Nox se mit la tête dans les mains, sa lumineuse tête, et il pria, dit M. Le Camus, et il pria ardemment. Puis il se retourna encore vers nous. Nous en sommes, dit-il, qu'au second coin, il y en eut 7. Oh, il en reste encore 5, fit Marceline, qui avait reçu du ciel le don des mathématiques. Je me demande si mon pauvre mari aura la force de les supporter. Monsieur Eliphas de la Nox se pencha sur le cœur de Théophraste et l'ausculta comme avaient fait le chirurgien et le médecin de cartouche, sur cartouche, dans la salle de la torture, 10 minutes auparavant. L'homme est solide, fit-il. Oh, je crois que nous avons à ce point de vue presque rien à craindre. Il enterrera cartouche. On me consulta, fait remarquer Monsieur Le Camus, et je fus de cet avis, les larmes aux yeux, que puisqu'on avait tant fait, il eût été regrettable de reculer pour la sécurité future et pour le bonheur définitif de Monsieur Longuet. C'est un mauvais moment à passer, fis-je. Madame Longuet, avec un soupir où elle avait mis sa tendresse, qui est grande pour son mari, dit « Oui, certes, c'est un mauvais moment à passer pour tout le monde, mais il faut tuer cartouche. Monsieur Longuet nous en remerciera après. Et puisque vous nous dites que l'homme est solide, faites, monsieur de Lanox, faites vite !» Monsieur de Lanox reprit donc le cours de son interrogatoire. Et maintenant, que fait-on de toi, cartouche? Mais il m'interroge, je ne peux pas répondre. Depuis quelques minutes, je me demande ce que c'est que cet homme dans le coin du cachot qui est à ma droite. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Je n'ai pas encore vu son visage, il me tourne le dos et il masque un bruit de ferraille. Le bourreau en ce moment est bien tranquille. Il est appuyé contre la muraille et il bâille. Il y a une lampe sur la table qui éclaire deux hommes qui ne cessent d'écrire. Ah, je viens d'apercevoir une petite lueur rouge derrière l'homme qui a devant lui un bruit de ferraille. L'aide du bourreau a desserré un peu le nœud des cordes et cela me procure un soulagement dont je lui suis infiniment reconnaissant. Mais, oh, mais l'autre aide, de l'autre côté, tire. Oh, s'il continue à tirer ainsi sur les cordes vont me couper les jambes. Je lui en fais l'observation, et les docteurs viennent me donner le crucifix à baiser. Derrière l'homme qui me tourne le dos, dans le coin de droite, et autour du bruit de ferraille, j'entends comme un grésillement de braise. Il y a des petites flammes rouges qui lèchent la pierre des murs. Entre les deux hommes qui écrivent, il y a un homme qui fait un signe. Le bourreau a une bonne figure. Je lui demande à boire. Certainement, j'aurais moins mal aux jambes si j'avais moins soif. Jésus ! Le bourreau ramasse son maillet. Mais je jure que je ne peux pas remuer les noms qui sont sur le bout de ma langue et qui sont si lourds qu'ils m'empêchent encore de parler. Mais enlevez-moi ces noms, enlevez-moi ces noms. Vous les voyez donc pas. Cette fois, raconte Monsieur Le Camus, la bouche est fermée. Mais les lèvres découvrent les dents de telle sorte qu'on ne croirait plus qu'il y a des lèvres autour de ses dents. Ses dents sont serrées, tout à fait soudées, sans espoir qu'aucun levier les sépare jamais. On dirait les dents d'un mort qui serait mort en serrant les dents. Et ce sont là des dents serrées pour l'éternité. Derrière ces dents gronde le cri démoniaque de la douleur. Le cri roule dans la bouche sans trouver d'issue, se heurtant à ses dents, mais on l'entend tout de même qui mugit de rage de ne pouvoir s'échapper librement à cause de ses dents fermées. Puis nous entendons un grincement aigu, qui est bien le plus insupportable à l'oreille, comme le bruit de l'ongle ou d'une pierre dans de la craie qui égratigne le tableau noir. Ce sont les dents de M. Longuet qui se brisent, qui éclatent sous la poussée du cri de la douleur. Des petits morceaux de ses dents ont été projetés autour de nous. À cet horrible spectacle, M. de Lanox, qui avait l'air ennuyé, nous avoua qu'il n'avait jamais assisté ni soupçonné que l'on pût assister à une souffrance aussi effective et que cela tenait peut-être à ce qu'il n'avait jusqu'à ce jour opéré que des âmes réincarnées d'au moins 500 ans, et encore était-elle fort rare, celle de 2000 ans fournissant la majeure partie de sa clientèle. Je vis bien que, malgré toute sa science et toute son expérience, l'illustre auteur de la chirurgie psychique était sensiblement désemparé. Comme il avait été un peu dur pour moi et qu'il m'avait traité tout à fait en amateur, j'en aurais pu concevoir quelque intime réjouissance, mais le supplice que supportait sur l'heure mon meilleur ami m'empêcha de tirer de cet incident toute la consolation morale qu'il m'apportait. Monsieur de Lanox, qui ne tâchait même plus de dissimuler son trouble, aurait peut-être arrêté là l'opération si on avait eu le temps. Mais on enfonçait déjà le quatrième coin dans les jambes de mon pauvre ami, et les trois derniers autres coins se succédèrent avec une rapidité qui ne permit même point à Monsieur de Lanox d'interroger Monsieur Longuet. Pendant ces quatre coins, la bouche de Monsieur Longuet édentée s'était rouverte et ce qui s'en échappait n'avait plus rien qui ressemblait au cri des hommes. Ce cri était si inconnu et si curieux dans la bouche d'un homme que nous nous penchâmes sur la bouche, tremblant de terreur, pour voir comment un pareil cri pouvait se faire dans une bouche humaine. Nous nous penchâmes sur cette bouche en nous enfonçant les doigts dans les oreilles, et nous vîmes le fond d'une gorge écarlate et vibrante où roulait pêle-mêle le rugissement du lion, le hiant de l'âne, l'aboiement du chien, le miaou du chat, le sifflement du reptile, le barrissement de l'éléphant et le pigouit de la perdrix. Oh, Madame Longuet voulut s'enfuir, mais elle était si épouvantée qu'elle s'empêtra dans les plis de sa robe et s'étala de tout son long sur le carreau. Quand elle se releva, je l'y aidai. Le cri avait à nouveau cessé, et Monsieur de Lanox lui ordonna de se tenir tranquille et de rester à sa place, lui rappelant d'un front sévère qu'elle avait sa part de responsabilité dans l'opération. Monsieur de Lanox nous avoua que le pire était fait, ce dont nous fûmes tout à fait aise. Nous étions débarrassés, du moins le pensions-nous, de cette grosse histoire de la torture. Maintenant, Théophraste reposait paisiblement sur son matelas de sangle. C'était une chose à considérer que cet apaisement immédiat, suivant l'horreur de la souffrance. Il ne souffrait donc que pendant qu'on le faisait souffrir. Il n'en conservait après aucune douleur appréciable. Il n'y avait pas de suite dans la douleur. C'est ainsi que nous nous expliquions que, dans les intervalles de la torture, il répondait à M. de Lanox de la façon la plus naturelle, sans émotion physique. M. de Lanox reprit l'interrogatoire. « Et maintenant, où es-tu, Cartouche ?»«
Je suis toujours dans la salle de la torture. »«
Oh, ils me tiennent bien. Bon, c'est jamais. » Je vous dis, je vous répète qu'ils croyaient bien me tenir le 1er avril dernier. Oh, voilà qu'ils me prennent les bras. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Oh, je crois bien par les tripes de Madame de Falaris que mes juges rigolent. L'homme du milieu de la table dit « Ordre du régent, il nous faut des noms. Tant pis s'il en meurt. Les tenailles sont-elles prêtes ?» Commencez par les mamelles. Oh ! L'homme à genoux devant le bruit des ferrailles et le grésillement des braises se lève. Il passe au bourreau des tenailles rougies. L'aide me découvre le sein droit. Oh ! Par les tripes de Madame Aïe, de
Nous n'étions pas au bout de nos peines, écrit M. Le Camus, qui décidément m'apparaît comme un affreux égoïste. Cette phrase peint tout à fait l'état de son cœur, moins troublé par la douleur excessive qu'entraînait pour son ami la terrible opération que par les cris inharmoniques jaillis de sa bouche édentée. C'est dans de pareils moments, à des heures aussi exceptionnelles, quand des événements imprévus dérangent la quiétude coutumière des amis, que l'on pourrait croire les meilleurs, qu'il faut juger les gens. Voyez, monsieur le Camus, il aimait Théophraste, puisqu'il lui donnait sa bourse, même il ne lui aurait pas sacrifié son repos. Il lui donnait sa bourse parce que, jouissant d'une belle aisance, ce geste ne l'eût point dérangé, tandis que cela dérangeait les oreilles de monsieur le Camus, que Théophraste, pendant son opération, cria si fort. Je me sens, quant à moi, beaucoup moins d'estime pour monsieur le Camus depuis qu'il a écrit en face de ce pauvre Théophraste, torturé sur son lit de sangle, « Nous n'étions pas au bout de nos peines. » Enfin, s'il fallait m'en dégoûter tout à fait, je crois bien que je n'aurais qu'à analyser subtilement, mais sûrement, la façon dont il nous rapporte le phénomène des cheveux. À un moment de l'opération, pendant la torture, qui durait beaucoup plus que l'histoire officielle de Cartouche n'eût pu le faire supposer, ce qui prouve, entre parenthèses, qu'il ne faut ajouter qu'une foi médiocre aux histoires officielles, Théophraste ne criait plus. Cependant, on le torturait avec plus de cruauté que jamais, puisque quelques mots qui lui échappaient apprenaient à ceux qui l'entouraient qu'après lui avoir tenaillé au fer rougi les mamelles et le gras des bras, le bourreau versait dans les blessures vives du plomb fondu et de la poix résine. 36 ans plus tard, en 1757, on fit subir absolument le même supplice à Damien, qui, de plus, fut écartelé. Théophraste, alors, ne criait plus, mais on vit ses cheveux blanchir. Eh bien, si monsieur le Camus a rapporté avec méchante humeur les cris insupportables poussés par Théophraste, il s'est quasi complu à décrire le blanchissement des cheveux. À le lire, on voit bien que ce blanchissement le dérange beaucoup moins que les cris. Et cependant, il ne devait rien rester des cris après l'opération, tandis que les cheveux de M. Longuet étaient devenus blancs pour toujours. Ils ont commencé à blanchir par les tempes, dit M. Le Camus, ce qui est naturel, mais nous ne nous en perçûmes que lorsque la moitié de la chevelure était déjà blanche. Ce phénomène capillaire est certainement le plus curieux auquel j'ai jamais assisté. Certes, on est toujours un peu étonné de trouver le lendemain matin une chevelure dorée sur la tête d'une femme que l'on a quittée brune la veille au soir. Mais dans ce cas, on se doute un peu de ce qui s'est passé. Tandis que nous ne pouvions nous expliquer la transformation mystérieuse et visible de la couleur des cheveux de M. Longuet que par sa douleur que nous ne voyions pas et que nous n'entendions plus. Cette ondulation blanche s'avançait avec la même certitude et la même aisance que la vague à l'heure de la marée. Tous les cheveux mirent 5 minutes à peu près à devenir blancs, à l'exception d'une mèche qui garda sa couleur châtain sur le front de M. Longuet, ce qui n'était point d'un aspect déplaisant. Cartouche avait cette mèche-là. Et voulez-vous que je vous donne encore le phénomène du ventre, d'après M. Le Camus? Vous y chercherez également en vain le moindre sentiment de pitié. C'est tout à fait incroyable. Je n'aurais jamais cru autant de sécheresse d'âme chez M. Le Camus. Voici le phénomène du ventre. Le bourreau venait de couler de l'eau bouillante dans les oreilles de M. Longuet, et nous pensions que cette fois la torture que l'on faisait souffrir au malheureux touchait à sa fin, quand Mme Longuet, qui depuis quelques instants ne cessait de pleurer, nous montra le ventre de son mari. Ce ventre se gonflait à vue d'œil, comme avaient blanchi les cheveux. Cependant, Théophraste faisait entendre le moindre cri. Bientôt, il fut nécessaire de déboutonner le gilet et le haut du pantalon, car tout le vêtement eut éclaté. Sous sa chemise, le ventre de M. Longuet dessinait un ballon qui, après avoir remué, resta immobile. Enfin, peu à peu, il diminua, et quand il fut revenu à un volume normal, M. Delanox demanda au patient pourquoi son ventre avait pris cette forme insolite et pourquoi il avait, lui, Théophraste, pendant le gonflement de ce ventre, conservé le plus parfait silence. Mon ami répondit qu'il aurait été bien embarrassé de parler, attendu qu'on lui avait mis un entonnoir dans la bouche, et que si son ventre avait ainsi gonflé, c'est qu'on avait versé dans cet entonnoir plusieurs seaux pleins d'eau, enfin qu'il avait rendu cette eau sans plus de dommages. Monsieur de Lanox, un instant, se pencha si précipitamment sur le cœur de Théophraste que Madame Longuet crut à quelque issue fatale. Mais il résulta de la demande qui fut posée que Cartouche, alors, faisait le mort. Ses bourreaux et ses juges, et même les médecins, y furent trompés. On le laissa seul une heure, et il en profita pour glisser dans une fente de la muraille, contre laquelle il était appuyé, un billet qu'il avait écrit de son sang avec une aiguille de bois. Le matin même, dans son cachot de la tour Montgomery. C'était le billet qui était le document, et sur une question que fit poser encore à ce propos M. Le Camus, on apprit que le document révélait bien l'existence de très réels et importants trésors. Je ferai encore remarquer au lecteur combien l'attitude de M. Le Camus en cette occurrence était indécente. La vie de Théophraste était en danger, et c'était encore les trésors qui le préoccupaient. Voulant même profiter de l'état de douloureuse hypnose dans lequel se trouvait M. Longuet, il tenta d'obtenir des renseignements complémentaires à cet égard. Mais M. Delanox et Marceline elles-mêmes mirent fin à cette scène regrettable, et M. Le Camus en fut pour sa rougeur et sa courte honte. M. Le Camus, dans la relation de ces sensationnels événements, n'est point tendre pour M. Delanox. Après l'avoir porté au nu et nous l'avoir présenté comme le roi des théosophes, à seule fin de dégager sa responsabilité, il prend un malin plaisir à faire état de son trouble, de ses hésitations et de ses stupéfactions devant les phénomènes exceptionnels qui firent de cette opération psychique une opération historique, semer les enseignements les plus hardis dans le domaine scientifique occulte. Tout ceci prouve bien que M. Le Camus était un âne prétentieux. Le charlatanisme lui en eût imposé, mais la simplicité et la sincérité de l'attitude de M. Delanox lui répugnaient. Il pensait aussi que le rôle de cet homme extraordinaire se bornait à dire sur une certaine modalité de ton « Et maintenant, que fais-tu, Cartouche ?» Et il n'était pas éloigné de croire qu'il eût pu l'accomplir, mais il l'estimait banal, l'insensé. M. Longuet serait mort entre ses bras dès la première minute, et Cartouche se promènerait encore dans le maintenant. Tout le travail astral de M. Delanox échappait à M. Le Camus. Comment aurait-il pu, lui, dont les yeux étaient de chair, voir ce miracle psychique par lequel M. Delannoy rejetait Cartouche vers l'abîme et retenait Théophraste dans la vie. Au début du récit de l'opération, je m'étais promis de n'interrompre cet illustre et divin interrogatoire d'aucune réflexion personnelle. Mais vraiment, je suis sûr que tout le monde ici m'excusera et me pardonnera, car il est des moments où la bêtise et l'ignorance irrésistiblement nous arrachent des cris d'indignation. Ceci dit, je reviens vite et avec quelle émotion attendrie à ce pauvre Théophraste sur son lit de sangle, car ce qui lui est arrivé ne serait compté au regard des malheurs qui l'attendent. Chapitre 20. La dernière poignée de main de Cartouche. Le récit qui suit est la reproduction intégrale de ce qui est sorti de la bouche de Théophraste, toujours plongé dans le sommeil de l'hypnose, depuis le moment qu'il a subi la torture et qu'il a fait le mort. Cette pièce est de la plus haute importance, non seulement pour la science expérimentale spirit, mais encore pour l'histoire, car elle détruit la légende de la roue et nous expose de façon indiscutable la véritable mort de Cartouche. J'ai trouvé cette pièce non point dans le coffret en bois des îles, mais dans les papiers et rapports qui ont été lus au Congrès Spirit de 1889. Il est tout entier de la main de M. de Lanox, et je lui ai donné la préférence sur la narration in fine de M. Le Camus, qui est à chaque instant émaillé des réflexions les plus stupides. Théophraste, ou plutôt Cartouche, en puissance de M. de Lanox, dit « Je ne sais au juste ce qui m'est arrivé. J'ai fait le mort, j'ai caché le document et je n'ai plus revu personne. Quand je rouvre les yeux, je les avais donc fermés, j'étais sans doute tombé en les fermant en quelque faiblesse semblable à la mort. Je ne reconnais d'abord aucun des objets qui m'entourent et j'ignore le lieu dans lequel on m'a transporté. Certainement, je ne suis plus dans la salle de la torture, ni dans mon cachot de la tour de Montgomery. Suis-je seulement encore dans la conciergerie? Je sais que non. Où m'a-t-on enfermé? Après la torture, en attendant mon supplice dernier, en quelle prison nouvelle m'a-t-on jeté? La première chose que je distingue est une lueur bleuâtre qui filtre en face de moi, au travers des barreaux épais rapprochés d'une grille. La lune vient me visiter, elle descend deux ou trois marches. Je tente de faire un mouvement, mais je ne puis. Je suis une chose inerte. Ma volonté ne commande plus à mes membres, ni à aucun de mes muscles. C'est comme s'ils avaient coupé toute relation entre ma volonté et ma chair. Mon cerveau n'est plus maître que de voir et de comprendre. Il n'est plus maître d'agir. Mes pauvres membres, je les sens épars autour de moi. J'ai dû atteindre un degré de souffrance tel que je m'explique ainsi que je ne souffre plus, mais où suis-je? La lune a descendu encore deux marches, et puis deux marches encore. Ah, qu'est-ce qu'elle éclaire, la lune? Elle éclaire un œil, un grand œil. C'est un œil énorme et profond dans lequel un corbeau, après l'avoir vidé d'un coup de bec, pourrait déposer son œuf. Mais l'œil est vide. Mais le grand œil est vide, et l'autre œil à côté, qui est aussi éclairé maintenant, est encore recouvert de sa paupière verte. Je vois toute la tête. Elle n'a plus de peau sur les joues, mais elle a de la barbe au menton. La lune avance avec précaution. Elle s'arrête tout doucement dans des trous de nez. Il y a trois trous de nez. Un trou de nez par tête, cela fait trois têtes. Ils m'ont donc jeté dans une fosse commune. La lune vient jusqu'à moi. J'ai deux jambes de cadavre au travers du ventre. Je reconnais maintenant ces marches et cette fosse et cette lune. Je suis dans le charnier de Montfaucon. J'ai peur. Quand les jours de ripaille, je montais aux chopinettes par la rue des Morts, j'ai regardé ce charnier à travers les grilles. Je l'ai regardé avec curiosité, parce que j'y voyais déjà ma charogne. Mais jamais il ne m'était venu à l'idée que lorsqu'une charogne serait là, elle pourrait regarder de l'autre côté des grilles. Et maintenant ma charogne voit. Ils m'ont jeté là parce qu'ils m'ont cru expiré, et je suis enterré vivant avec des cordes pendues. Mon sort est tout à fait misérable et dépasse tout ce que l'imagination des hommes pourrait inventer. Les plus tristes réflexions viennent m'assaillir, et si je me demande d'abord par quel artifice du sort j'en suis réduit à une pareille extrémité, je me vois obligé de m'avouer que le sort n'est pour rien dans mon affaire, mais bien exclusivement mon orgueil. J'aurais pu continuer tranquillement à être le chef de tous les voleurs si j'étais resté vivable. Mais la belle laitière avait raison quand, au cabaret de la reine Margot, elle me disait que je n'étais plus vivable. Je n'admettais plus une observation. Et quand je convoquais mon grand conseil, je ne tenais aucun compte des résolutions où il s'était arrêté. Je me plaisais à jouer au potentat et j'avais fini par prendre cette manie de découper en morceaux tous ceux que je soupçonnais. Mes lieutenants couraient plus de danger en me servant qu'en me desservant. Ils m'ont trahi et c'était logique. Le commencement de ma mauvaise fortune fut l'affaire du Luxembourg. Le 1er avril 1721, un mois après son évasion du fort l'évêque, Cartouche fut vendu par des mouches et ils avaient averti la police que Cartouche devait traverser le Luxembourg pour se rendre dans une carrière près de Montrouge. Quand il fut dans le jardin, toutes les portes furent fermées à l'exception de celle par laquelle il était entré, qui était la porte de la rue de Vaugirard en face de la rue Férou. Cette porte était gardée par 50 archers qui devaient l'emmener en prison. Ayant jugé du traquenard, Cartouche prend vite sa résolution, comme toujours. Il revient en face de la rue Férou. Là, un pistolet de chaque main, il se précipite, bondit sur un cheval qu'un garde français tenait par la main et disparaît par la rue de Tournon sans avoir eu même besoin de faire feu, dit Maurice Bernard. Elle aurait dû m'ouvrir l'œil, mais mon orgueil m'empêchait de voir clair. Il est bien temps de faire toutes ces réflexions, maintenant que je suis dans le charnier. Je suis vivant dans le charnier avec les morts, et pour la première fois de ma vie, j'ai peur. Mais je n'ai pas peur des morts, j'ai peur des vivants. Car il y a un vivant autour de moi. Je sais qu'il remue. Il est étrange comme à cette minute où je suis sur la limite de la vie et de la mort. Mes sens perçoivent des choses qu'ils avaient ignorées dans la bonne santé. Et cependant mes oreilles n'entendent plus à cause de l'eau bouillante dont elles furent pleines. Ne serais-je donc point le seul à vivre dans ce domaine de putréfaction? Je me souviens que la vache à panier m'a raconté que le comte de Charolais avait fait enfermer vivantes dans de petites fosses sur la butte de Montfaucon des femmes qui lui avaient résisté. Mais moi, à Cartouche, je n'ai point voulu croire à un crime pareil. Je sais bien qu'il se baigne dans le sang des petites vierges qu'il fait tuer, pour se guérir de l'affreuse maladie qui lui dévore les chairs, mais enfermer des femmes vivantes dans des fosses, ça, je ne le crois pas. Plusieurs historiens accusent en effet le comte de Charolais d'avoir pris des bains de sang humain. C'était un bruit certain qui courait à l'époque et qui était un des plus vraisemblables vu le personnage. Il est historique que le comte de Charolais, pour se faire la main, décrochait d'un coup de carabine les couvreurs sur les toits. À la suite de l'un de ses derniers crimes, qui avait ému même le garde des Sceaux, Louis XV dit à ce monstre, prince du sang, « Je viens de signer votre grâce, mais voici en blanc la grâce de celui qui vous tuera. » Revenons au récit de Cartouche. Et cependant, il y a sur ma gauche, à côté de moi, une femme qui remue dans une fosse. Je ne l'entends pas, je la sens. La lune a allongé son rayon jusqu'à moi. Son rayon est divisé en trois par les barreaux de la grille. Cela fait trois bandes bleues dans lesquelles je vois d'abord le trou de l'œil et les trois trous de nez, et puis une bouche épouvantable qui me tire la langue. Et après, il y a trois corps sans tête. Dans le flanc gauche du troisième corps, Je distingue très bien la plaie putréfiée dans laquelle s'enfonça un des crocs de fer par lesquels fut pendu ce décapité. On ne pouvait le pendre par la tête, puisqu'il n'avait plus de tête. Et comme je ne sens plus remuer la femme dans la fosse à côté, je me remets un peu et je m'occupe à dénombrer les corps qui emplissent le charnier. Je commence même à apercevoir ceux qui sont tout à fait dans les ténèbres. Il y en a, parbleu. On apporte ici tous les suppliciés de la ville. Note. Les corps des individus qu'on avait décapités ou fait bouillir sur une des places de Paris étaient suspendus par les aisselles et exposés, accrochés à une chaîne. Les fourches patibulaires de Montfaucon, nous dit Sauval, étaient au temps de la Ligue une masse de pierre surmontée de 16 piliers. On y arrivait par une rampe faite de pierre assez large et que fermait une porte solide. Cette masse avait la forme d'un parallélogramme. Elle était haute de 2 à 3 toises, longue de 6 à 7, large de 5 à 6, et composée de 10 ou 12 assises de gros quartiers de pierre bien liés et bien cimentés. Les piliers étaient gros, carrés, chacun avait 32 ou 33 pieds de hauteur, et pour joindre ensemble ces piliers et y attacher les corps des suppliciés, on avait enclavé dans leur chaperon, à moitié de leur hauteur et à leur sommet, de grosses poutres de bois qui traversaient de l'un à l'autre et supportaient les chaînes de fer d'1,50 m de longueur. Contre les piliers étaient toujours dressées de longues échelles destinées à monter le patient au gibet. Au milieu de la masse sur laquelle se trouvaient les piliers était une cave destinée à recevoir les corps des suppliciés qui devait y rester jusqu'à destruction entière des squelettes. C'est dans ce charnier que les magiciens venaient chercher les cadavres dont ils avaient besoin. Note de Sauval. Le cadavre de Coligny fut pendu à Montfaucon par les cuisses avec des chaînes de fer, puis on y pendit encore son mannequin de paille avec un cure-dent à la bouche. On continua à exposer ainsi les corps jusqu'en 1630. Y furent exposés encore tous ceux qui moururent en duel, malgré les édits. 20 années plus tard, du temps de Sauval, en 1650, le gibet lui-même était délaissé, mais le charnier continua longtemps encore à être en honneur. Ce n'est qu'en 1760, 40 années après les événements qui nous occupent, que le gibet fut détruit et la fosse comblée, et la grande justice du roi transportée, comme nous l'avons dit, à un nouveau Montfaucon, près de l'actuelle rue Secrétan. Reprenons le texte de Cartouche. Il y en a de frais, il y en a de pourris, il y en a de bien conservés et tout secs, mais d'autres ne sont pas présentables, ils tombent en ruine. Je serai bientôt une ruine comme eux. Cependant, tout n'est pas dit, tout n'est pas fini. Puisque je suis, l'espérance n'est pas morte. On retrouve l'espérance même au fond d'un charnier. Ah, si je pouvais remuer, les morts remuent, finiraient bien aussi par remuer. J'ai tourné les yeux le plus qu'il m'était possible dans le coin droit de l'orbite, et j'ai vu que le mort qui est sur mon ventre et qui remue n'a pas de tête. Il glisse sur mon ventre. Oh, je recommence à avoir peur, non pas parce que le mort remue, car les charniers appartiennent aux morts, qui font ce qu'ils veulent, mais parce que l'on tire ce mort par les jambes. J'ai retourné mes yeux dans l'autre coin, dans le coin gauche de l'orbite, et j'ai vu une jambe du mort en l'air. Cette jambe doit être tenue par quelque chose, tirée par quelque chose. La lune monte le long du mur avec la jambe jusqu'à un trou. Et mes yeux regardent tellement à gauche qu'ils voient une main vivante. La main vivante qui sort du trou tire le pied mort. Je sens Je sais qu'il y a dans le fosse à côté une femme qui mange. »
On enterrait aussi, sous le gibet de Montfaucon, des personnes toutes vives. Quelques-unes de ces sinistres exécutions sont restées historiques. Jeannette, la bonne valette, et Marion Bonnecoste, Hermine Valenciennes et Louis Chaussier subirent ce supplice pour leur démérite et furent enfouis dans une fosse de 7 pieds de long. L'une des plus célèbres de ces malheureuses, Pierrette Mauger, voleuse et receleuse de profession, fut condamnée par Robert d'Estouville, prévôt de Paris, à souffrir mort et à être enfouie toute vive devant le gibet. Elle dit qu'elle était grosse, fut visitée par ventrières et matrones qui rapportèrent à la justice qu'elle n'était point grosse. Elle fut alors enfouie, comme avait été dit. Sauva. Et maintenant, mes yeux ne quittent plus le trou, dans la terreur de voir revenir la main vivante, de voir s'allonger vers moi la main vivante. Mais j'espère sur mon salut que la main ne sera pas assez longue. La lune soudain cesse d'éclairer le trou et mes yeux se tournent vers la grille par où la lune est entrée. Alors je vois, entre la lune et moi, sur les marches du charnier, un homme vivant. Je suis peut-être sauvé. Je voudrais crier de joie, j'aurais peut-être crié, si l'horreur de ce que je sens tout à coup, de ce que je sais, ne m'avait soudain bouché la gorge. Je sens, je sais, que cet homme est venu là pour me voler mes os, à cause de la courtisane Émilie. Le régent s'est souvenu du duc d'Orléans et de Jean sans peur. Au commencement du XVIIIe siècle, comme au XIVe, comme encore maintenant, on pratiquait l'envoûtement qui vient d'apparaître comme une chose moins inoffensive qu'on ne l'avait cru depuis les expériences de M. de Rochat sur l'extériorisation de la sensibilité. Mais l'envoûtement primitif consistait dans la fabrication d'une image en limon, quelquefois en cire, fabriquée à la ressemblance de la personne qui l'on voulait nuire, avec l'accompagnement de quelques prières, sacrements, invocations et formules magiques, un stylet était enfoncé dans cette figure et la personne à laquelle elle ressemblait pouvait en mourir. Depuis le XIIe siècle, les monuments historiques offrent des exemples assez nombreux de cette pratique. L'envoûtement ne consistait point seulement à tuer, mais à détourner l'esprit de la personne visée dans le sens désiré par l'envoûteur. Au cours du procès qui suivit l'assassinat du duc d'Orléans, dans lequel fut si fort compromis le duc de Bourgogne, Jean sans peur, celui-ci fit déposer que le duc d'Orléans se livrait à ses pratiques. En 1407, est-il écrit dans ce procès, un moine, à l'instigation du duc d'Orléans, alla, après avoir fait invocation au diable, dépendre un homme tout frais à Montfaucon, lui mit l'anneau du duc à la bouche, lui fendit le ventre, lui arracha l'os de l'épaule, lequel fut remis au duc d'Orléans, qui porta cet os de pendu entre sa peau et sa chemise. Grâce à l'anneau et à l'os, le duc d'Orléans savait fasciner et faire condescendre toutes les femmes à ses désirs. Extrait de la justification de Jean sans peur de l'assassinat du duc d'Orléans. Reprise du texte. La courtisane Émilie ne veut plus le voir. Un os de cartouche qui en fut aimé entre sa peau et sa chemise, pour elle, le diable s'en mêlant la ramener dans son lit. Je sais cela. Mon regard a lu cela dans le cœur de l'homme qui descend les marches du charnier. Il vient là pour me prendre mes os. Il allume une lanterne. Il va droit à mon cadavre. Il ne voit donc pas que les yeux de mon cadavre remuent. Il tire de sous son manteau une lame d'acier aigu et toute rouge dans le rayon de la lanterne. Il dépose sa lanterne. Il me prend par les épaules et me dresse à demi contre la muraille au-dessous du trou. Il me prend la main gauche avec sa main gauche
et de la main droite m'enfonce la lame d'acier dans le poignet. Je ne me sens pas la lame dans mon poignet, mais je la vois. Elle tourne autour de mon poignet. Elle va le trancher. Déjà, elle le détache. Je commence à sentir la lame. La vie renaît dans mon poignet. Ah, si mon poignet! Ah, si mon poignet! Un dernier coup de sa lame et ma main gauche va lui rester dans sa main gauche. Ah, si mon poignet! Ah, si mon poignet! Oui, oui, il a la vie d'un air. Je vous dis qu'il suffit de la vie d'un air. Ah, ah, ah! L'homme hurle et casse d'un coup de pied sa lanterne. Ma main est partie dans la main de l'homme, mais par un dernier miracle de la vie dernière, de mon poignet, ma main, au moment où elle quittait son bras, a saisi la main de l'homme. Et l'homme ne peut plus se défaire de ma main, qui s'est crispée en mourant, et qui le tient, et qui le tient, et qui le tient. Ah, il agite, il secoue, il hurle, il secoue ma main qui le tient, qui le tient. Il tire avec sa main droite ma main qui est dans sa main gauche. Mais on ne se débarrasse pas ainsi de la poignée de main d'un mort. Je le vois qui s'enfuit du charnier en hurlant et qui bondit sur les marches en agitant dans la lune comme un fou, ma poignée de main. À ce moment, au-dessus de ma tête, une main que je ne vois pas mais que je sens sort du mur et me prend par les cheveux. Elle me tire la tête. Ah, crier, 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 mais comment crier avec ces dents vivantes qui me défoncent la gorge? Et maintenant, Cartouche, où es-tu? J'entre dans les ténèbres rayonnantes de la mort.